Cette quête du pouvoir qui est sous-jacente à la relation femme-saint se voit confirmée par l'existence de femmes saintes qui occupent une place prééminente et dont la spécialité est de résoudre les problèmes de sexualité et de fécondité. Elles ont un rôle et une fonction que Freud pourrait qualifier certainement de phallique. Certaines de ces saintes dépassent le stade du désir de pénis et renversent les rapports patriarcaux traditionnels. Ce sont elles qui donnent un pénis aux hommes souffrant de troubles sexuels. C'est ce qui fait, par exemple, c'est ce que fait la sainte algérienne Lala Nfissa. Mais leur fonction ne se réduit pas à cela. Si on insiste sur le rôle passif des femmes dans le monde physique réel, les femmes du monde surnaturel mènent en revanche des existences intensément actives, accomplissant toutes sortes d'actions, de la bienveillante protection maternelle à l'agression caractérisée telle que le viol d'un homme. Ces femmes qui œuvrent dans le royaume du surnaturel ne respectent pas la traditionnelle division des sexes dans le monde musulman qui exclut les femmes du pouvoir religieux et politique. Elles peuvent y refuser les rôles domestiques et assumer des fonctions actives, tant en matière religieuse que politique. Dans l'un des plus vénérés des recueils de vie des saints, l'ouvrage qui date du XIIIe siècle, qui a pour titre At Tazawaf, avec son auteur Abu Yaqud, At Tadili, il ne pense pas devoir mentionner spécialement qu'il y ait eu des femmes parmi les saints. Et pourtant, c'est parce qu'elles ont exactement les mêmes droits et privilèges et revêtent à cette époque les mêmes aspects caractéristiques que les hommes. À un moment donné, une sainte raconte « Cette année, des centaines de saintes sont venues visiter ce sanctuaire. » Ailleurs, un saint souligne qu'à Al-Massimida, un nom de région, il y avait 27 saints dotés de pouvoir de voler dans les airs, dont 14 étaient des femmes. Les saintes semblent se répartir en deux catégories, les unes ayant été sœurs, épouses ou filles d'un saint, les autres ayant été saintes de leur propre fait. Beaucoup d'entre elles ont des personnalités et des intérêts nettement non féminins, apparemment. Ainsi, l'une d'entre elles, qui fuit littéralement sa condition domestique, ne voulant pas se marier, elle s'échappa sous forme de colombe et se fit prostituer dans la montagne. 27 jeunes gens disparus après l'avoir aimée, puis elle devint ascète dans une hutte au sommet de la montagne. Dégnillée, hirsute, elle prêche la religion dans la vallée, revient à sa hutte, quitte même ses haillons, vit nue, prophétise. Il est interdit de toucher aux arbres autour de sa tombe, de tuer les oiseaux, de dénicher les œufs de perdrix. On retrouve la même fuite loin de la condition féminine patriarcale chez une autre sainte qui fut aussi savante que belle, résista à Moulay Zidane, mourut vierge et n'est visitée que par les femmes. Il convient également de relever qu'une littérature très abondante met en scène des saintes ayant tenu des rôles importants dans le domaine politique. La sainte berbère Lala Tagourami en est sans aucun doute l'une des plus fameuses. Elle qui eut une fonction stratégique dans l'histoire de sa région en tant qu'arbitre des conflits tribaux et entre tribus et autorités centrales. Son influence politique se révéla si forte que le roi la fit jeter en prison. Comme elle était parmi les plus belles filles du village, elle fut recherchée pour le mariage, mais refusa tous les prétendants. La réputation de sainte de la jeune fille en grandit et s'étendit au loin. Le sultan voulut connaître la sainte et la fit demander à Marrakech. Elle s'y rendit et continua dans la ville à se faire remarquer par sa piété et par le bien qu'elle faisait autour d'elle. Elle fut très honorée, mais son influence devint tellement grande que le sultan en prit ombrage et la sainte fut jetée en prison. Elle mourut empoisonnée. On peut bien sûr imaginer que ce sort tragique a été inventé par les narrateurs afin de décourager les autres femmes de suivre son exemple. La valeur psychologique et affective de ce que les femmes vivent dans les sanctuaires est évidente et incontestable. Ces endroits, qui sont évocateurs de figures mythiques anti-establishment et anti-patriarcales, offrent aux femmes un espace où il est permis, voire recommandé, de se plaindre et de vituperer les injustices du système. Il leur donne la possibilité de développer une vision critique de leurs conditions, d'identifier les problèmes et de leur trouver des solutions. Simultanément, les femmes mènent toute leur énergie à se concilier une force surnaturelle qui puisse agir en leur nom contre la structure d'oppression. Cela n'affecte pas la structure formelle du pouvoir, bien sûr, ni le monde extérieur. Cela produit en revanche un effet thérapeutique collectif qui touche les visiteuses individuellement, sans pour autant les amener à faire valoir à l'extérieur la solidarité vécue au-dedans, ni à agir sur leur système pour l'aménager selon leurs besoins. Ces besoins découlent en effet de leur dépendance économique par rapport aux hommes et des services qu'elles doivent leur rendre en échange, sexe et descendance. Le saint dans son sanctuaire tient la place du psychiatre dans la société capitaliste. Il décharge le mécontentement à travers les processus thérapeutiques et lui ôte ainsi la charge qui aurait pu provoquer l'affrontement avec la structure formelle du pouvoir. Les saints aident donc les femmes à s'adapter au système de pression. Les vagues du ressentiment viennent mourir sur leur seuil du sanctuaire. Il n'y a plus rien qui pèse sur la femme, elle s'en va, avec la seule confiance que son contact avec le saint a déclenché les mécanismes qui vont agir sur le monde, le changer et le lui rendre plus favorable. En ce sens, les visites au sanctuaire sont presque des « happenings » au cours desquels l'énergie collective des femmes et leurs forces combatives s'investissent dans des institutions aliénantes destinées à les absorber, à diminuer leur potentiel explosif, à les neutraliser. Le paradoxe est que l'arène des démonstrations populaires les plus vives contre l'oppression, l'injustice et l'inégalité devient, dans les économies en voie de développement, le meilleur allié de l'indifférence des bureaucraties nationales. L'accueil favorable que les autorités administratives réservent aux activités rituelles traditionnelles qui tournent autour des saints, alors qu'elles s'opposent à tout mouvement de nature syndicaliste ou politique, relève d'une tactique bien connue dans la politique du tiers-monde. C'était la contribution de Fatima Mernissi au livre sur le thème « La religion par les femmes », notre quatrième chapitre sur ce thème. Livre qui a réuni de multiples contributions, réunies par Nancy Herfolk et Rita M. Gross. Livre que vous pouvez trouver aux éditions Labor et Fides. Nous nous retrouverons dans un mois pour évoquer un autre engagement des femmes dans la religion ou dans les rites religieux. Et pour changer complètement de style musical, tourner une page dans notre programme, je vous propose d'écouter une jeune chanteuse canadienne qui s'appelle Marie Carmen. Pourquoi tu vas et ne donnes pas? Nous interrompons momentanément dans notre musique avec notre chanteuse canadienne parce que nous avons en ligne notre correspondance à Paris, notre correspondante à Paris, c'est l'émotion qui me fait bégayer. Laurence Brun, qui peut-être vous vous en souvenez, visite pour nous, si je puis dire, le Festival de Femmes de Créteil, cinéma de femmes, comme chaque année, cette année, et qui a lieu du 18 au 27 mars. Et on avait envie de vous suggérer d'y aller. Il reste encore une fin de semaine pour pouvoir suivre ce festival. Alors, quelques nouvelles de la part de Laurence pour vous faire envie. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour Catherine.
Alors, comment c'était ce début? Une ouverture pleine de dynamisme et de plaisir?
Était complètement endiablée. Il y avait, en fait, cette ouverture était axée sur les lycéens, sur les jeunes, hein, surtout. Les lycées étaient très représentés, tout le monde applaudissait, tout le monde criait, tout le monde sifflait, c'était la grande atmosphère. Et ils ont montré un film qui s'appelait « Mi Vida Loca » de Alison Anders et qui montre des jeunes latinos à Los Angeles, une bande de jeunes. Voilà, donc je pense que ça a été, cette soirée d'ouverture, à part tout le reste du programme, bien sûr, a été axée vers les jeunes. C'est pour ça que c'était très vivant.
Et alors l'atmosphère, on retrouve cette vie après les films, il y a toujours des débats, etc.
Voilà,
le festival, malgré le changement à la tête de la Maison des Arts de Créteil, n'a pas changé dans sa forme.
La Maison des Arts est absolument superbe, repeinte neuf, avec des beaux fauteuils tout neufs, tout brillants. La configuration géographique a un peu changé, mais sinon c'est toujours la même atmosphère. Il y a un jeune directeur très entreprenant et très dynamique et très content, et qui racontait d'ailleurs dans la soirée d'ouverture qu'il est allé en Chine, et que là-bas on lui avait dit « Ah, vous êtes directeur de la Maison des Arts de Créteil, ah mais vous connaissez le festival de films de femmes ?» Alors il disait « C'est quand même assez extraordinaire, ce festival est connu jusqu'en Chine ».
Waouh! Alors enfin, les femmes chinoises doivent être contentes.
Voilà, alors grand applaudissement, tout le monde très content. Donc il y a toujours la même atmosphère de solidarité, d'engagement, de mobilisation autour de différents thèmes, de différents pays, de différents problèmes, des débats qui durent jusqu'à 1h du matin. Tout ça est quand même assez vivant et assez prenant. Enfin, quand on arrive de l'extérieur et qu'on a d'autres choses dans la tête, on est immédiatement sollicité et entraîné en fait dans cette atmosphère.
Alors Laurence, est-ce que pour encourager nos auditrices peut-être à venir passer ces derniers jours de festival à Créteil, donc puisque le festival dure jusqu'à dimanche 27, oui. Est-ce que tu peux les allécher avec quelques films ou du moins quelques orientations, quelques choix qu'a fait le festival pour cette édition-là ?
Alors écoute, je pourrais les allécher pour ce soir, hein, puisqu'à Catherine Deneuve.
Mais là, ça c'est un peu court.
Mais c'est peut-être un petit peu tôt. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, elles arrivent le vendredi. Vous arriveriez le vendredi ?
Voilà. En tout cas, ce qui me concerne, c'est mon cas.
Alors, écoute, en tout cas, le vendredi soir, il y a un film d'une jeune chinoise, mais qui habite en Amérique, et qui dépeint une certaine jeunesse un peu marginale et un peu coquine, dirait-on. J'avais assez envie d'aller voir ce film, qui a l'air assez original.
Beaucoup de documentaires, tu me disais, qui semblent intéressants.
Oui, il y a pas mal de documentaires sur les femmes japonaises, notamment le militantisme féministe japonais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre film documentaire. Il y a de nouveau, je vois, des films argentins, des films canadiens, des films espagnols. Documentaire, moi j'ai vu un très beau documentaire d'une Australienne à propos d'une femme tchèque qui est immigrée donc en Australie et qui relate toute sa vie le communisme à Prague, etc. C'est un portrait de femme qui est, je trouve, très attachant et très émouvant. Samedi 26 mars, 20h, tu vois, donc il sera redonné à 20h. Et il y a un autre film, il paraît extrêmement drôle, qui s'appelle « La force du rire ». Qui est un film allemand où il s'agit d'ethnies d'Afrique de l'Ouest qui, pour résoudre leur conflit par le rire et l'humour.
Ça, on devrait s'en inspirer.
On
devrait s'en inspirer chez nous aussi.
Absolument. Donc, tu vois, là, il y a il y a toutes sortes d'atmosphères graves, gaies, fantaisistes, engagées, plus légères. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a toujours du débat.
Et vendredi soir, je vois là, dans le mini-programme que j'ai sous les yeux, une soirée sacrée au travail de la journaliste Mireille Dumas, que tout le monde connaît dans « À bas les masques », mais que l'on va découvrir ici. Donc, « À bas les masques », cette émission où elle reçoit des gens sur des thèmes qui se passent dans une sorte de tête-à-tête de conversation. Et là, en fait, on va découvrir qu'avant cela, elle avait réalisé quelques films, des reportages en particulier.
Oui, exactement.
Et puis, une dernière soirée, je crois, consacrée
aux images électroniques.
Voilà, alors ça, c'est une autre histoire.
Parce que ça, je veux dire, c'est vraiment actuel. Il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile d'accès, mais c'est intéressant, esthétiquement parlant. Quoi. Ça fait vraiment partie de ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. Donc, pour être à la question, il faut voir ça. Voilà. Absolument.
Voilà, et voir si les femmes manient la technique différemment que les hommes.
Oui, alors là, c'est une autre histoire.
Oui. C'est une question qu'on pose, c'est pas une affirmation.
Oui, oui.
Alors, je crois que c'est des petites pistes comme ça qu'on donne. C'est difficile de parler de tous les films qui sont encore montrés entre jeudi. Déjà, les femmes peuvent arriver demain si elles sont disponibles et nous entendre.
Même ce soir, si elles veulent.
Oui, ça, le dernier TGV part à 19h. Elles seront un peu à 17h. Oui, elles peuvent encore.
Pourquoi pas ? Quand on est passionné, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? Comme vous dites, ma chère. En tout cas, on peut dire à nos auditrices qu'entre les deux, puisque nous nous retrouvons donc vendredi, on va essayer de faire un maximum d'interviews, de rencontrer des femmes. Il y a une réalisatrice suisse qui a montré son travail, c'est Jacqueline Veuve.
Et il y a même, lors du débat, une femme qui a dit que son film était radical.
Waouh ! Alors, on va peut-être essayer de poser la question à quelques femmes qui l'ont vu, ce qu'elles en ont pensé plus en particulier, parce que toi, tu as enregistré des éléments du débat qui a suivi la projection.
Débat, oui.
Voilà. Alors, on se réjouit de voir si elle a eu l'impression d'être bien accueillie comme Suissesse à Créteil. Voilà. Alors ça, c'est le contenu de notre émission de la semaine prochaine. Je me réjouis de te retrouver, Laurence.
Oui.
À demain, à vendredi soir.
Au revoir.
Merci. Ciao, Laurence.
Ça sert à quoi de faire
C'est l'enfer chez Marie Carmen, chanteuse québécoise. J'espère que ça n'aura pas été durant notre émission de Remue Ménage en Femme Radio Zone 93.8. Je vous redonne vite quelques petites coordonnées pour le festival du cinéma film de femmes à Créteil ce week-end jusqu'au 27 mars si ça vous intéresse. Donc c'est simple, vous vous y rendez en TGV Genève-Paris. Là vous prenez à la gare de Lyon le métro ligne Ballard-Créteil. Vous allez jusqu'au terminus et vous suivez les flèches qui vous mènent à la Maison des Arts de la ville de Créteil. Et si jamais, je vous donne un numéro de téléphone si cela vous intéresse, le 00 33 1 49 80 38 98. Je répète, Maison des Arts de Créteil pour le Festival international de films de femmes. 00 33 1 49 80 38 98. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer toutes les belles découvertes que nous aurons faites à Créteil. À bientôt.
Ouvre tes ailes, grandeur.